laboratoire de Bervilliers, qui est un centre de recherche et de résidence artistique. C'est une ancienne usine de roulement à billes. Pendant voilà, l'époque industrielle, cette usine faisait quasiment tout le quartier. Et la mairie a récupéré les locaux pour les prêter à un artiste qui s'appelle François Véret en 1992. Et c'est, donc il a utilisé ces locaux pour en faire un espace de recherche, donc c'est un chorégraphe, pour en faire un espace de recherche avec sa compagnie en lien avec le territoire, avec les habitants. Et c'est en 2001 que l'association et laboratoire de Bervilliers s'est construite avec un conseil d'administration et donc plusieurs directions, donc des directions collégiales. Donc la particularité de ce lieu, c'est que ce sont les artistes, enfin c'est un lieu qui est dirigé par les artistes pour les artistes. Donc voilà, donc ces directions collégiales composées d'artistes et puis une personne qui accompagne aussi, parce que c'est pas forcément le métier des artistes de gérer un lieu, c'est pas facile toujours quoi. Et là depuis 2019, c'est Grand Magasin, je sais pas si vous voyez, François Hiffler, Pascal Murtin, c'est une compagnie de théâtre performance qui travaille beaucoup sur le langage et la déconstruction de celui-ci dans les mots, et Margot Wittkock qui les accompagne depuis maintenant, depuis 2019. Là ça fait, on est en 2020, donc ça fait un an quasiment.
Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Clémence, donc je fais partie du laboratoire, d'un laboratoire qui s'appelle le MediaLab qui est à Sciences Po. Donc, je suis avec mes collègues Germain Melmans qui est anthropologue et Luigi Seri qui est comédien. Et donc c'est nous qui proposons à l'invitation d'Ariane, de la sonneuse et après on a conçu l'atelier ensemble, mais cet atelier de sociologie populaire des controverses. En fait l'idée c'est qu'on travaille, donc le MediaLab c'est un laboratoire plutôt en sciences sociales qui traite aussi des questions du numérique. Nous à l'intérieur de ce laboratoire, on travaille pour Forecast qui est un programme de recherche et de pédagogie sur la cartographie de controverses. Donc ça Luigi va nous expliquer un petit peu après plus en détail ce qu'est une controverse, mais en tout cas c'est un peu l'idée de produire des formes de recherche sur les controverses, donc c'est un peu des endroits où les savoirs, les connaissances ne sont pas encore tout à fait stabilisés, pour pouvoir agir dans un monde qui est incertain et dans un monde aussi complexe. Donc c'est une méthode vraiment d'enquête en sciences sociales qui est assez descriptive. Et depuis l'an dernier, on a initié donc, ces ateliers de sociologie populaire des controverses. Et donc tout simplement, c'est l'idée qu'on met en partage un public non initié, c'est-à-dire non universitaire ou qui n'est pas dans le domaine scolaire, parce que sinon on intervient pas mal avec des étudiants qui peuvent être de Sciences Po ou d'autres universités, parfois aussi des lycéens, mais de mettre en partage des méthodes de recherche en sciences sociales, des méthodes d'enquête. Donc on travaille voilà, autour de l'enquête. Et donc aujourd'hui, donc on avait commencé ces ateliers l'an dernier à la Gaîté Lyrique, et là à l'automne, on va dans plusieurs lieux sur des sujets différents. Et donc là, avec la semeuse, ça faisait un bon écho de travailler sur les plantes invasives. Et on a choisi de travailler sur deux quelles espèces, le datura et les lances, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Ce que j'ai à vous dire avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que donc, enfin, l'atelier, on commence ici, après on ira voir un peu la sonneuse, il y aura une balade dans Bervilliers, on terminera près de dans la cité jardin de la Maladrerie. Donc là, on va commencer par vous exposer un petit peu la controverse sur laquelle on a un petit peu travaillé, même si on n'est absolument pas spécialiste de botanique ou des plantes, mais on est plutôt enquêté pour pouvoir restituer un petit peu nos recherches. C'est un atelier, donc c'est aussi bien sûr ouvert, l'idée c'est qu'on puisse un peu discuter tous ensemble du sujet.
En fait, comme disait Clémence, notre groupe Forecast, c'est à la base, c'est un projet pédagogique. Donc, on essaie de. C'est pas parce que on n'a pas toutes les connaissances sur quelque chose qu'on peut pas s'intéresser à certains sujets. Donc, les controverses, il y en a un peu partout. Aujourd'hui, on dit même il y a prolifération. Controverse, tout simplement, comme elle a dit, c'est une situation un peu d'incertitude, mais à la fois dans la connaissance scientifique, donc où il y a des preuves qui sont apportées pour tel énoncé ou pour contre cet énoncé ou pour mitiger ou pour l'appliquer différemment, mais c'est un débat en fait qui va aussi s'élargir à la société civile. Donc il y a peut-être des acteurs économiques, des associations qui vont pouvoir prendre la parole sur ce sujet qui a une certaine technicité. C'est là où notre travail est d'aider les élèves en fait à s'orienter disons, dans ce paysage, dans ces controverses, à trouver les informations, à comprendre qui dit quoi. C'est un peu ça le travail. Donc même si on ne connaît pas techniquement un sujet, on peut quand même essayer de s'intéresser et d'essayer d'y voir plus clair. Il y a plein de sujets et en fait, aujourd'hui, c'est tout le temps comme ça. Que ce soit, je ne sais pas, l'énergie nucléaire, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des envies très tranchées, mais après, rentrer dans la spécificité technique, essayer de comprendre pourquoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un déchet, vraiment, c'est pas évident et il faut faire quand même ce travail pour se former une opinion, à mon avis. Et par exemple, je suis toujours surpris que les deux, quand on dit pour ou contre le nucléaire, il y a toujours ceux qui sont pour qui disent les autres c'est des irrationnels, et ceux qui sont contre ils disent maintenant vous êtes des fous à vouloir continuer cette énergie parce que les déchets. Donc à chaque fois on s'accuse d'irrationalité, de folie, mais sans accepter qu'il y a des arguments rationnels peut-être et qui ne sont pas toujours dans le côté pour ou contre. Vous voyez, parfois c'est un pour, mais d'une certaine manière, mais pas contre tout, mais contre cette spécificité-là. Donc l'idée, c'est vraiment de nuancer et de détailler les choses, de décrire de manière la plus précise possible. D'autres controverses, le glyphosate, là, on va parler de plantes. Donc le glyphosate, on sait tous ce que c'est. Est-ce que c'est cancérigène? Certains instituts scientifiques disent que oui, probable. D'autres n'ont pas trouvé la preuve. Donc la preuve de l'absence n'est pas l'absence de la preuve. Enfin, et est-ce que la question c'est juste par rapport à son lien avec le cancer? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions qui sont liées? Et donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un thème comme ça, et évidemment les agriculteurs, ils ont une façon. Il y a les agriculteurs Confédération Paysanne, c'est pas du tout le même point de vue que les agriculteurs de la FNCA. Vous voyez, il y a à chaque fois le paysage est très très embrigué, très complexe, et c'est pour ça nous on essaye de pas trouver forcément une solution, mais de décrire déjà cette complexité, c'est déjà quelque chose. On se sera formé une opinion sur la base d'une connaissance un tout petit peu étendue. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va parler des plantes invasives. Bon, c'est un sujet qui a un lien très fort avec la biodiversité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'effondrement de biodiversité et ça concerne à la fois des espèces animales et des espèces végétales. En Ile-de-France, il y a quand même une chute de biodiversité par rapport aux plantes. Comment est la situation? On est plutôt stable.
Pour te répondre, je peux commencer par un bref état des lieux de la flore en Ile-de-France, avec quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer, mais juste pour donner quelques points de comparaison. Donc la flore régionale en Ile-de-France est très variée. On va dénombrer environ 1300 espèces indigènes. Un quart des plantes vasculaires, c'est-à-dire des plantes qui ont des racines et des vaisseaux, c'est-à-dire la plupart des plantes, sont menacées d'extinction. Et on a évalué que 7% d'entre elles ont déjà disparu. Donc on peut s'interroger sur l'ampleur et les causes de ces mutations. Car comme le disait Marc Janson, qui est botaniste et responsable de l'herbier national au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, au micro de France Culture l'an dernier, si vous enlevez les plantes, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus rien, c'est radical. C'est à la base de tous les écosystèmes. Ce sont elles à l'origine des sols. C'est l'élément essentiel de tout le monde vivant, de tous les réseaux trophiques, c'est-à-dire de la chaîne alimentaire. Si vous enlevez les plantes, tout le reste se casse la gueule. Outre un déclin global des populations de plantes, on observe aussi un changement dans la composition de la flore régionale. Depuis un siècle environ, ce sont 96 plantes qui ont disparu dans la région et 78 nouvelles qui sont apparues. En général, elles sont arrivées du sud de l'Europe, à cause du réchauffement climatique ou via des échanges commerciaux avec l'Amérique du Nord principalement. Et on assiste en réalité, parce qu'on pourrait dire que c'est à peu près stable, 96 qui disparaissent, 78 nouvelles qui apparaissent, mais en fait on assiste à une banalisation de la flore par substitution d'espèces, c'est-à-dire que la singularité de la flore de l'Île-de-France a tendance à s'effacer et qu'on va avoir tendance à retrouver de plus en plus les mêmes plantes un petit peu partout. Et on sait que les invasions biologiques sont considérées comme la deuxième plus grande menace sur les écosystèmes et les espèces natives dans le monde, après la destruction des habitats.
La deuxième.
Ouais.
Ça paraît comme énorme, mais t'es sûr
Ouais, c'est une donnée qui est vraiment fiable. Je le tire tout simplement d'un article d'un écologue américain qui s'appelle David Wilkoff, qui a publié un article en 1998 dans une revue tout à fait sérieuse et fiable qui s'appelle Bioscience.
Mais en fait, ça, je veux dire, parce que j'ai lu cet article, mais en fait, ça s'applique surtout aux États-Unis. Et en fait, il fait pas mal d'exemples sur les îles, sur les Hawaï. Donc, c'est des îles. Alors, du coup, je ne suis pas sûr que son argument s'applique chez nous. Et d'ailleurs, moi, j'ai lu un autre ouvrage qui s'appelle d'ailleurs un peu comme le titre de notre « La grande invasion, faire peur des espèces invasives ». Donc, c'est un biologue, lui, qui remet un tout petit peu en cause cette idée. Il dit « Si les espèces invasives apparaissent comme les secondes responsables d'extinction d'espèces dans le monde, c'est précisément parce que près de 80% de ces extinctions se manifestent dans les îles, où les prédateurs introduits ont un impact très élevé, mais la Terre n'est pas une île, et les plantes invasives peuvent certes modifier la physionomie d'espaces naturels, mais n'ont jamais entraîné d'extinction avérée. » Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais peut-être un tout petit peu nuancer cette idée d'espèces invasives qui, je trouve, un peu effrayant. Et j'ai l'impression, si j'ai bien lu ce qu'il dit, il n'y a même pas de définition scientifique consensuelle.
Ah non, là où je t'arrête, Luigi, c'est faux.
Ah bon?
T'as pas dû lire une réponse à cette tribune qui émane d'un collectif d'écologues, qui répond à l'argument que tu viens de présenter de Jacques Tassin. Il nous dit, c'était donc déjà il y a quelques années, en 2014, il existe un large consensus de la communauté scientifique sur la définition d'une espèce invasive. Selon cette définition, les espèces invasives, appelées aussi espèces exotiques envahissantes, sont des espèces introduites par les humains en dehors de leur aire de répartition naturelle, de manière volontaire ou involontaire, donc accidentelle, et dont la propagation menace la biodiversité et peut avoir des impacts négatifs sur l'économie et ou la santé humaine. Donc en résumé, une espèce invasive est une espèce qui vient d'ailleurs, qui a été introduite, et qui cause des dommages écologiques, sociaux ou économiques, là où elle va proliférer. Donc voilà, personne ne veut vraiment accuser ces espèces, mais elles entraînent des problèmes, et on ne va quand même pas les ignorer. Et il faut garder à l'esprit qu'il y a plein d'espèces exotiques qui ne sont pas du tout une menace. Est-ce que, par exemple, vous sauriez nous donner quelques exemples d'espèces exotiques qui ne sont pas une menace, qu'on peut croiser tous les jours dans notre alimentation, ou dans les jardins?
Le maïs.
Voilà, par exemple. Exactement, il y a beaucoup d'espèces qui sont arrivées après 1500 des États-Unis. On a l'aubergine qui vient d'Asie, la tomate notamment qui vient d'Amérique et qu'on utilise vraiment tous les jours. Et elle, par exemple, elle ne pose aucun problème dans les cultures et dans le territoire, notamment par exemple en Europe. Tout ça pour dire que c'est un fait scientifique, Luigi, et que je peux dire que même l'UICN n'a pas hésité à le.
Lui quoi ?
L'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est connue pour sa liste rouge des espèces en danger, qu'elle publie très régulièrement à l'échelle ou mondiale ou plus locale, nationale, et qui est un inventaire très complet de l'état de la nature. Et elle se compose en gros de gouvernements et d'organisations de la société civile, et elle fait véritablement autorité.
Oui. En fait, moi je ne dis pas que ce phénomène n'existe pas, d'accord. C'est juste que, en fait, voilà, il faut vraiment voir les choses à la bonne échelle. Enfin, et comme je reprends une citation de Tassin, il dit « Tandem aliquando invasores fiunt vernaculi ».
Ah, c'est clair.
Non, vous n'avez pas compris, non, je sais. Bon, je vais traduire. Mais ça veut dire « Un jour, enfin, les envahisseurs deviennent des indigènes ». Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, ça bouge tout le temps. Évidemment, à notre échelle d'une vie, ça nous fait peut-être un peu peur, on appelle les envahisseurs. Mais à grande échelle, à l'échelle de l'histoire de la Terre, ça bouge tout le temps. En plus, maintenant, avec le changement climatique, ça va être le cas. On ne va pas s'accrocher à ces espèces parce que c'est de chez nous. Ça va bouger. Forcément, il y aura du vin en Angleterre, ici des cactus. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est une réalité. Je ne vois pas pourquoi il faut se mettre à lutter.
Oui, mais on n'aurait quand même pas laissé toute la flore s'appauvrir dans les différents territoires et disparaître, ouais. Sous le prétexte que c'est inéluctable de regarder
mais en fait, c'est juste ce focus sur le côté invasif qui me gêne, parce que c'est comme s'il y a un petit préjugé là-dedans. Je sens, c'est ce qu'il dit Tassin, il y a un préjugé, et comme si on avait trouvé le coupable. Et comme si on avait, voilà, il faut protéger nos espèces à nous, il y a un discours un peu anxiogène, quoi, qui va taper dans l'émotion, dans la peur. Il y a un tout petit peu de métaphore qui me gêne personnellement et qui est même inquiétante, parce que avec toutes les frontières, ce climat un peu paranoïaque, je trouve que de parler d'espèces un peu immigrées, voilà, je pense que les scientifiques, peut-être, ils ne font pas exprès, mais ils devraient faire gaffe, tu vois, à parler d'une manière, de ne pas diffuser un climat parano, voilà, de ne pas verser l'eau à ce moulin-là.
Oui, mais là, je pense que c'est un argument inacceptable. C'est comme si tous ceux qui étaient préoccupés par ce problème, celui des plantes invasives, étaient des fachos obsédés par les espèces étrangères.
Je n'ai pas dit ça. Ouais.
En réalité, l'enjeu est bien plus pragmatique. On a mis en place des réponses coordonnées au niveau international, européen, plus local, et on privilégie une action en amont, et on applique aussi le principe de précaution. Donc ce que tu ne veux pas voir, c'est que toutes ces démarches tentent de lutter contre, et je pense que c'est vraiment un combat extrêmement important, de lutter contre l'homogénéisation du vivant à l'échelle de la planète, à travers la planète, et contre même ce que certains appellent la McDonaldisation de la nature.
Oui, 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 non, c'est vrai, mais c'est juste que, enfin, l'autre jour, la radio, je ne sais pas si vous voyez le frelon asiatique. Alors, je sais, c'est une bête assez redoutable, mais un peu partout, c'est devenu le péril jaune. Enfin, le frelon asiatique, c'est le péril jaune, juste parce qu'il vient de l'Est. Alors, je trouve que c'est, on va un peu souffler sur des braises, et franchement, même le Rassemblement National, le Front National, et il s'est mis à l'écologie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont tout un discours, voilà, ça c'est Hervé Juvin, lui c'est l'écolo du parti, et il est interviewé un peu partout, et lui il dit ça, voilà, c'est la pire chose pour tout écosystème, c'est l'invasion des espèces étrangères. Et du coup, l'homme, c'est ça, doit défendre son biotope contre les espèces invasives. Il faut protéger les biens communs du nomadisme. C'est quand même à gerber. Moi, je ne sais pas. Enfin,
je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas parce que le Front National, enfin, le Rassemblement National, instrumentalise des causes justes qu'il faut arrêter d'en parler. Il y a aussi une rhétorique faussement de gauche qui, en réalité, fait le jeu du capitalisme sauvage, à mon avis. C'est l'éloge du grand brassage, du changement inévitable, de la circulation des humains et des non-humains. Et ce culte de la mobilisation permanente, cette injonction au voyage, c'est ça qui permet au capital de continuer à absorber et à broyer toute altérité. Il y a deux philosophes auxquels je pense, Virginie Maris et Frédéric Néra, qui disent cela très bien dans un de leurs articles, Le sauvage en travers de la gorge, et je les cite. Penser l'autochtonie, biologique ou culturelle, ne revient nullement à fantasmer un monde fixe et immuable, dans lequel chaque population, humaine et non humaine, aurait une place assignée pour toujours. Il s'agit plutôt, de façon humble et prudente, d'admettre qu'il existe un monde du temps long, un monde d'avant la grande accélération industrielle et l'économie globalisée, et que ce monde mérite notre respect et notre protection, ne serait-ce que parce qu'il a tant à nous apprendre sur la cohabitation possible entre les espèces, humaines et non humaines. Donc en gros, ils décrivent dans leur article, les politiques de conservation biologique ne signifient pas un conservatisme politique. Il ne faut pas tout confondre, ni faire de raccourcis politiques inappropriés, mais plutôt regarder la réalité des transformations écologiques actuelles en cours, et leurs causes.
C'est sûr, si t'es philosophe, t'arrives à faire la nuance et tout, mais moi je suis pas sûr, les gens qui écoutent comme ça la radio, des bribes de conversation, ils y arrivent. Enfin, après, je sais pas, est-ce que vous avez, à votre avis, est-ce que c'est plutôt moi qui ai raison ou c'est plutôt Clémence? Est-ce qu'il faut faire gaffe à ce langage de plantes invasives ou c'est tout à fait neutre, banal, normal? Je sais pas, dans votre sensibilité.
J'ai déjà une question, c'est qu'il me semble que les plantes invasives ne sont pas toutes exotiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes de plantes invasives sur des espèces autochtones qui prolifèrent de par la dégradation d'un milieu, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a déjà ce composant exogène qui n'est pas toujours présent dans la discussion, en fait.
Après, invasif, c'est la traduction française, en fait, c'est une sorte d'anglicisme. Et en fait, on le traduit de manière scientifique, c'est vraiment exotique, espèce exotique envahissante. Donc, ça part du présupposé, effectivement, qu'elle est exotique. Mais je pense qu'effectivement, tu peux en avoir aussi qui... puis après, tu peux en avoir qui peuvent déstabiliser un milieu, même si elles ne viennent pas de loin. Et après, c'est toujours aussi la même chose. À partir de quand on va considérer qu'une espèce est exotique ou quand est-elle indigène? Et là, il y a différents critères. Les gens ne sont pas forcément toujours d'accord. En général, justement, on parlait tout à l'heure des tomates, des pommes de terre. Pour des espèces qui viennent des Amériques, on va se dire que si c'est par exemple, on va dire... en Île-de-France ou en France depuis 1500, on considère ça comme indigène. Mais après, il y a d'autres espèces, si elles viennent de l'Asie ou d'autres régions du monde, on n'est pas trop certain, on a beaucoup plus de mal en fait, à retracer, à dater en fait, leur arrivée sur le territoire, et donc on ne sait pas forcément si elles sont exotiques ou indigènes. Donc, il y a, effectivement...
Mais du coup, vous connaissez des plantes invasives, mais de chez nous ?
Par exemple, quand on déforeste à un endroit, souvent il y a de la... il y a des ronciers ou de la fougère qui se mettent, notamment de la fougère aigle, qui peut empêcher l'installation d'autres plantes. Ça crée des... D'ailleurs, non, souvent les forestiers coupent les fougères pour pouvoir permettre aux arbres de pousser. Elles sont des espèces autochtones. C'est juste parce qu'il y a une perturbation du milieu qui permet à une espèce particulièrement adaptée de s'installer.
Je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui ont été confrontées à des plantes invasives, qui ont dû arracher. Non, vous n'avez pas de jardin, j'imagine. Bah ouais, vous êtes à Paris. Ouais.
Non, les plantes invasives, elles ne sont pas toutes mauvaises, elles ne viennent pas toutes de l'autre côté de la planète. Sinon, tous les gens qui ont envisagé ont forcément des tonnes de plantes invasives qui vont être amenées à enlever.
Ouais, c'est un mauvais air.
Mais effectivement, après, la question étant plus celle de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les plantes, comme vous avez parlé du changement climatique, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les gère, et effectivement, comment ça fait partie aujourd'hui de notre paysage, comment ça a amené à changer. Et effectivement, c'est intéressant de savoir, c'est pas forcément négatif, mais c'est de savoir comment on gère ces choses-là.
Alors, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, bah après c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai fait une visite dans les Calanques avec un botaniste. Et il nous a décrit des endroits où les plantes invasives sont aussi ce qu'on appelle des plantes pionnières, si j'ai bien compris. C'est-à-dire des plantes qui vont s'installer les premières dans des endroits où la vie est un peu plus complexe, par exemple dans les pierriers, dans les Calanques. Après, c'est une question aussi de temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui font qu'au bout d'un certain temps, alors à l'échelle de temps, c'est vrai qu'il voit peut-être 20 ans, et sur l'échelle de 20 ou 30 ans, d'autres espèces arrivent petit à petit, et ces plantes pionnières laissent la place à une mixité en fait, qui se forme. Et donc il faut peut-être aussi les voir sous cette, avec ce regard de plantes pionnières permet de coloniser des espaces pas forcément propices à
d'autres choses. Ça, c'est très important. Parce que là, on est vraiment dans des questions de sémantique. C'est un débat, voilà, avec quel mot on va utiliser. C'est sûr, je dis en plante pionnière, c'est plus valorisant que de dire invasive. Enfin, ça ne génère pas les mêmes réflexions, les mêmes actions finalement. J'ai l'impression que la sémantique a quand même un poids, finalement, dans l'action qui est entreprise.
Ouais, au-delà de la sémantique, c'est juste qu'elles ont aussi un rôle. Je veux dire, c'est que les plantes invasives, elles ont aussi une utilité, puisqu'elles permettent à la vie de se développer à des endroits qui sont un peu plus complexes, peut-être moins
accessibles. Mais cette utilité, on la voit quand on définit d'une façon. Parce que peut-être il y a plein de choses où on n'a pas vu que telle ou telle plante, ou même dans d'autres domaines, avait une utilité parce qu'on n'était pas branché là-dessus. C'est là où on essaie, dans les controverses, il y a souvent des moments où effectivement, c'est la décision de pointer les projecteurs à tel endroit permet de découvrir un fait. Mais on peut dire le fait, il était déjà là, mais il faut avoir déjà la mentalité qui t'incite à le voir. Ce fait, ou à le chercher, ou à le définir.
Un exemple notamment, ça va être le souci. Donc, tu vois, c'est une fleur donc, qui s'est appelée le souci parce que les jardiniers avaient beaucoup de soucis à l'arracher. Quoi. Et en fait, ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait le manger en salade, ça pouvait te purger, et qu'il y a des gens maintenant qui vont récolter les soucis à côté des jardins pour en faire du commerce et pour vous faire des tisanes de soucis. Tu vois. Donc c'est aussi quel rapport à quelle vision. Mais pourtant, le nom de la plante s'appelle le souci. Parce que c'était le premier souci des jardiniers. Donc pour revenir sur la question de la sémantique, tu vois, et du rapport, du fait, de l'action et de l'usage qui aussi joue et garde un héritage sur la fleur en elle-même, le souci, parce qu'elle a gardé malgré tout ce nom-là à cause de ça. Tu vois.
Oui, qui évolue aussi en fonction
voilà.
Du temps, de la période, et puis après comment les endroits se transforment.
C'est ça, exactement.
Après, la question de la temporalité, elle est aussi super importante, parce que notamment quand une plante commence à se naturaliser dans un écosystème, il y a aussi des mécanismes de régulation qui peuvent se mettre en place. Et ça, c'est dans les controverses sur la gestion des plantes invasives, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut être assez interventionniste ou au contraire laisser les écosystèmes se réguler? Par exemple, on peut prendre l'exemple de la pyrale du buis, qui a vraiment fait des ravages, notamment dans le sud de la France, en défonçant tout le buis. C'est un insecte qui arrive d'Asie, fine, et les petits passereaux, les mésanges, les mangent là-bas. Et jusqu'à récemment, les mésanges chez nous ne les mangeaient pas. Et on a commencé à constater que certains oiseaux commencent à les manger maintenant. Et on peut penser qu'il y a aussi un mécanisme de régulation, en tout cas pour cet insecte-là, qui va se mettre en place petit à petit. Et ça, ce sont des choses qui ont été aussi vues en milieu endémique, donc sur les îles, par exemple à Hawaï, sur certaines plantes envahissantes, et de savoir qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de naturalisation et une population qui se stabilise finalement, qui arrête d'être envahissante parce qu'elles sont régulées par d'autres.
De travailler, de reprendre sur la question du vocabulaire, sur le mouvement du réensauvagement, rewilding. Mmh. Et en fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit à la conservation de la nature, mais plus la conservation avance, c'est-à-dire conserver comme dans des musées ou des rapports assez hygiénistes en fin de compte, mais par exemple, insérer de gros herbivores dans des espaces qui réactivent en fait la nature et en fait qui transforment le paysage et qui fait que certaines espèces qui avaient disparu reviennent parce qu'il y a de l'activation continuelle. Parce que les gros herbivores mangent, puis il y a Fukaka, puis il y a les graines elles sont réactivées. Et c'est cette question de réensauvagement, et aujourd'hui, en tout cas en Europe, qui est en fait il y a quasiment plus d'espace sauvage, tout est complètement quadrillé, et donc il y a vraiment d'espace de réensauvagement dans différents pays. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'imagine vous avez entendu la polémique du réensauvagement de la société, qui a donc la réutilisation en fait de ce genre de terme, qui fait que il y a une sorte de flou en fait sur qu'est-ce que ça veut dire le réensauvagement réellement et pourquoi on parle de, quand on dit réensauvagement de la société, qu'est-ce que ça veut dire sauvage civilisé, qu'est-ce que ça veut dire préservation ou non préservation de la nature en fait. Donc tu vois, c'est des trucs assez flous qui des fois je pense peuvent perdre aussi les gens, tu vois, dans ce rapport-là, mais c'est exactement le même terme en tout cas en français quoi. Mais
on a aussi, je crois que tu n'as pas donné ton avis, donc là, il faut trancher. Qui a raison dans cette controverse?
Je t'arrête, parce que tu me poses la question, est-ce que je suis pour ou contre les plantes invasives? Mais ça, c'est complètement à l'opposé des principes d'analyse de controverse que tu expliquais au début, en fait.
Ouais, mais bon, tu peux quand même avoir ton avis perso.
Moi, je trouve que vous avez raison tous les deux. Non, vous avez tort tous les deux. En fait, il faut aborder cette question en la replaçant dans un débat qui avait lieu d'abord aux États-Unis. C'est vraiment, évidemment, cette question des plantes invasives, de ce qui vient dans le jardin, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est, on va dire, vieux comme l'agriculture. Mais ce terme d'invasif, ça vient, en fait, de débats qui se sont déroulés aux États-Unis dans les années 80-90. Tout un débat hyper houleux qui a d'abord été dominé par des biologistes, dans lequel des sociologues ont intervenu ensuite. Et tout ça s'inscrivait un petit peu dans l'histoire de ce pays, qui est celle d'un génocide perpétré contre des populations précolombiennes. Et il y a eu plusieurs ouvrages à l'époque, comme celui-ci de Ken Drews en 1994, qui fustigeait le jardinet colonial avec son gazon bien coupé de près, ses petites haies bien taillées, et portait un plaidoyer pour se retourner plutôt vers des espèces vraiment américaines qui réellement venaient de là, pour retrouver cette nature américaine Wild, voilà, avant cette colonisation. Sauf que, évidemment, tout de suite, ça a fait réagir d'autres personnes, comme Michael Pollan, qui s'est insurgé contre ce discours. Alors, je vous lis cette citation. Il est difficile de croire qu'il n'y a rien de plus qu'une préoccupation scientifique concernant les espèces envahissantes derrière cette mode actuelle du jardinage naturel, sachant que nos politiques nationales sont pleines d'inquiétudes concernant l'immigration et le sentiment isolationniste. Donc, à ce moment-là, la polémique est lancée. Dans le débat actuel en France, on la retrouve aussi un petit peu, est-ce que ces nativistes ne seraient pas en train de surfer sur une vague anti-immigrée finalement? Et plus récemment, d'autres personnes, donc là on était dans les années 90, mais ça continue, vous voyez, de manière plus récente,
bon, 2011, c'est, ça a déjà presque 10 ans, mais on pourrait trouver des exemples pour actuellement, où d'autres personnes viennent ajouter de l'eau au moulin de Michael Pollan, donc Mark Davis ici, qui disent « Beaucoup d'espèces que les gens considèrent comme indigènes sont en réalité étrangères. Les décisions politiques et de gestion doivent tenir compte plutôt des effets positifs de ces envahisseurs, soi-disant, et donc il faudrait se concentrer plutôt sur les fonctions des espèces plutôt que sur leur origine. » Sauf que le problème là-bas, évidemment, a d'autres dimensions que ça peut avoir ici en France quand on discute de ça, puisque aux États-Unis, il y a cet impact de la colonisation. Et donc il y a aussi des anthropologues qui se sont emparés de ce débat et qui proposent le concept de décolonisation botanique, comme Masnak et ses collègues, qui expliquent que ce terme de native, d'indigène en anglais, est tout de suite imbriqué avec cette dynamique de colonisation. Et dans ce domaine discursif émergent, en fait, les peuples et les plantes colonisées étaient supposés partager un destin commun. Et donc vouloir protéger tout ce qui est native, ce serait plus ou moins une forme de xénophobie, ce serait moins en fait pour une forme de xénophobie, c'est de trouver un compromis justement, une volonté de déconstruire ce passé colonial. Donc il rappelle que pour les Anglais qui débarquaient en Amérique, la colonisation, c'était aussi une opération massive de plantation et de déplantation. Donc le but, c'était de reproduire une forme de jardin d'Éden qui, pour eux, était l'Angleterre, en gros, les jardins anglais de l'époque. Enfin, ce qu'ils avaient connu, en tout cas, en Europe avant d'arriver. Et donc, maîtriser cette espèce de nature qui, eux, percevaient comme sauvage et la remplacer par quelque chose de jardinier, de culturel. Sauf qu'on se rend compte, bien sûr, que cette nature, soi-disant originelle ou pure, peu importe, était totalement fantasmée, puisque les plantes indigènes qu'ils ont trouvées en arrivant faisaient partie intégrante d'un paysage cultivé par les Amérindiens, comme l'a montré Marjorie Schmitt, parmi d'autres. Les peuples autochtones non seulement montraient aux premiers colons certaines utilisations des plantes indigènes, mais pratiquaient le labour, les semis, le désherbage, la taille, le brûlage et la récolte sélective pour gérer les populations de plantes et façonner leur environnement naturel. On voit bien là que défendre ces plantes indigènes, ça ne vise pas tellement à revenir à une nature vierge, puisque ces plantes indigènes, en fait, elles ont toujours dépendu de la culture humaine, en tout cas depuis très longtemps. Et donc le discours autour des native plants, pour ces auteurs, il servirait plutôt à saper ces relations entre les plantes, les humains et des formes de pouvoir qui sont constituées à l'époque du colonialisme.
D'accord. Bon, ben... Voilà. c'est assez une autre couche. En fait, c'est encore une autre couche, effectivement, parce que bah, là, il y a ce problème de cette invasion qui a complètement changé la donne. Alors nous, en France, je ne sais pas, pour savoir qui est net, il faudrait venir avant les Romains, quoi, chez les Gaulois.
Je pense que c'est plutôt la question, d'après ce que vient de nous dire aussi Germain, c'est surtout de s'intéresser à la manière dont les humains, les végétaux et les animaux voyagent. Et ça change tout, de recontextualiser.
Ah ouais. Et du coup, finalement, c'est qui a raison? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse.
Personne n'a raison, on est dans la controverse. Et ça, c'est pas très grave. Et ce que nous apprend ce débat, en tout cas, c'est que les humains, comme les plantes, sont avant tout liés à un territoire, ils sont place-based, comme on dit en anglais, et qu'il importe de les replacer donc dans leur contexte politique et historique.
Ouais, je crois que t'as raison.
J'aime bien terminer.
Ouais, c'est toujours Clémence qui a raison. C'est à la fois une controverse philosophique, presque, mais un peu qui devient politique. Et en même temps, c'est assez général. Mais après, sur chaque plante, voilà, les brochures que vous avez, vous voyez, dans chaque Lélante, Datura, mais il y en a d'autres aussi. Quand on commence un peu à chercher, on se rend compte qu'il y a, là aussi, il y a plein de sujets de discussion, à la fois scientifiques, mais aussi qui sont plus quelque chose de pratique. Lélante, on va voir tout à l'heure, on nous montrera, il y en a partout. Est-ce que ça gêne, ça gêne pas? J'ai découvert aussi en bas de chez moi, il y en a. Datura, je ne sais pas, peut-être tu veux parler un peu, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, on est ici.
Donc oui, je sais pas si tout le monde a récupéré les deux fascicules. Si vous ne l'avez pas encore fait, ils sont là. Donc en fait, c'est pas nous qui les avons écrits, on s'est compilé des articles, des informations, des extraits d'ouvrages anciens ou plutôt récents mais historiques sur donc, ces deux plantes, les langues et le Datura, apparemment. Pas jusqu'à la semaine dernière, et qui cherche un petit peu à aller retracer donc, c'est la façon dont ces plantes ont voyagé et le type de controverse qu'elles peuvent soulever. Alors les Lentes, on va revenir dessus pendant la balade avec Ariane, mais le Datura, on va en dire un petit mot maintenant, parce qu'on ne va pas trop revenir dessus après, mais vous protéger les corpus. Si vous voulez les admirer, les voilà. Vous pouvez les regarder, mais je ne vous conseille pas de les manger ou de les inventer, parce que pour ceux qui ne sont pas
c'est au courant,
ça peut entraîner, voilà, ça entraîne des hallucinations. Alors, il y a des personnes qui le prennent justement en sachant très bien pour des raisons qui les regardent, mais il y a aussi eu récemment beaucoup d'intoxications involontaires au datura, puisque alors, vous verrez sur la première page, quelques coupures de presse hein, sur la première page du corpus, on a retrouvé du datura dans des boîtes de haricots en conserve, où les graines se sont retrouvées dans des paquets de farine de sarrasin bio, parce que vous verrez, ça a une importance aussi après. Et donc, en fait, il y a des personnes qui se sont trouvées intoxiquées, il y a eu des cas graves d'ailleurs, à cause de cette plante. Et ça, ça a généré tout un débat, parce que finalement, elle était passée relativement inaperçue. C'est pas une question de santé publique jusque récemment, le datura, alors, c'est quelques personnes qui en connaissent exprès, c'est mais pourquoi est-ce qu'on retrouve d'un coup du datura dans nos cultures, un petit peu partout. Et du coup, on vous a mis quelques extraits, points de vue assez distincts, je ne vous ai pas tous mis, mais qui vous permettent de montrer un petit peu ce que viennent chercher les acteurs quand ils débattent de questions telles que celle-là. On a d'abord un discours qui vient plutôt du monde agro-industriel. Donc en fait, il y a, je crois que c'est Leclerc, le grand groupe là, c'est, qui a commandité une étude, parce que c'était dans des haricots chez eux qu'on s'était retrouvé cette plante, qui déduisait en fait de son étude que d'une part, le datura était de plus en plus présent en France à cause du réchauffement climatique, parce que c'est une plante qui s'accommode assez bien d'un certain taux d'humidité, de chaleur, etc. Donc le réchauffement climatique fait que les conditions en France sont plus favorables, donc ils montent et on retrouve de plus en plus. Et d'autre part, il fustigeait l'agriculture biologique de ne pas faire assez attention aux Atlantis, plantes non désirées, non désirables, qui prolifèrent dans leur culture, en disant parfois carrément qu'ils ont qu'à utiliser plus de glyphosate et on serait débarrassé, on n'aurait pas ce problème-là. Donc ça a été repris par une partie de la presse, mais d'autres personnes, des agronomes, c'est notamment Xavier Roux, dont on a un extrait d'une interview ici aussi, eux ont plutôt été chercher comment ces plantes de datura se retrouvaient vraiment dans ces farines, dans ces boîtes de haricots, et a montré que c'était les cribles qui étaient, donc les cribles, c'est des tamis, si vous voulez, qui étaient utilisés par l'agro-industrie, qui n'étaient pas suffisamment sélectifs que pour vraiment faire la différence entre un épinard, ou un haricot, et une tige de datura. Et donc, lui, ce qu'il explique, c'est que c'est plutôt parce que, justement, on est dans un modèle de production agricole plus intensif, plus industriel, on pourrait dire, que les agriculteurs vont moins dans les champs, ne se rendent pas compte en fait du fait qu'il y a de la datura, on délègue tout ça à des machines qui ne font pas la différence, ça se retrouve dans notre nourriture. Donc vous voyez, en gros, c'est pour vous montrer, encore une fois, que ces questions, quelque part, de plantes invasives, déjà, à partir du moment où on dit que cette plante est invasive, il y a un problème, ça vient de quelque part, c'est parce qu'on a retrouvé ça dans des haricots, donc voilà. Mais aussi, ça va chercher des choses beaucoup plus larges que pour ou contre l'invasive, que forcément de nature, vierge ou pas vierge, etc. Et dans l'occurrence, c'est comment est-ce qu'on produit en fait de la nourriture aujourd'hui en France. Et la deuxième partie du corpus, on voulait vous la mettre parce que c'est une autre partie de la controverse qui est plutôt... parfois, on fait un peu la différence entre des controverses cloisonnées ou décloisonnées. Controverse décloisonnée, c'est quand une question va se retrouver dans le débat public, va concerner énormément de personnes, des acteurs qui ne sont pas nécessairement scientifiques, chercheurs, ou vont s'en emparer et produire de la connaissance là-dessus. Controverse cloisonnée, c'est le contraire, c'est par exemple, est-ce que le boson de Higgs existe? Bon, ça ne concerne pas des tas de personnes en dehors de quelques petits groupes de physiciens. Et en fait, le datura, ça fait longtemps qu'il est pris aussi dans des controverses internes plutôt à la botanique, qui sont aussi assez rigolotes à retracer, et qui questionnent plutôt son origine. Ce que ça permet de montrer, c'est comment des disciplines différentes qui vont en fait avoir des méthodes différentes d'enquête vont aboutir à des conclusions radicalement différentes. Donc le datura, on considérait qu'il était présent partout en Eurasie, enfin donc en Asie, en Europe, mais aussi en Amérique, en Amérique latine, du côté du Mexique et du Guatemala depuis toujours, et que donc il y avait retrouvé enfin, les ethno-écologues. C'est vrai que je voulais te dire un mot là-dessus.
Non, c'est plutôt les pratiques traditionnelles, justement, qui étaient liées à la datura, donc j'avais fait quelques recherches. C'est vrai que... Bon, la datura, je ne sais pas si vous voyez la forme de la plante, tout le monde voit un peu à quoi ça ressemble. Ça fait des très jolies fleurs blanches ou des fois bleues, selon la qualité, selon la variété, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est que ça, après la fleur, il y a une sorte de cocon comme ça qui se forme avec des pics, et à l'intérieur, il y a les graines qui sont noires, en fait. Et moi, j'ai eu ma première rencontre avec la datura, c'était au jardin. Donc j'en ai chaque année en fait, et elles poussent essentiellement à côté des cultures. Donc ça aussi, ça pose cette question parce qu'à un moment quand on s'est lancé sur l'idée de faire l'atelier, on s'est dit on va traiter la datura et les lentes, et en fait j'ai commencé à rechercher dans les friches pour voir s'il y avait de la datura, et ben il y en avait pas. Et j'ai un pote qui fait de l'agriculture sur les toits à Aubervilliers, et la datura sur ses toits, et il fait de l'agriculture. Donc c'est la question de se dire en fait la datura elle est contente à côté des endroits cultivés quoi. Parce qu'elle a besoin d'un petit peu, d'un petit peu d'azote, d'un petit peu de compost, donc il y a vraiment un peu cette question-là qui est intéressante. Et du coup, j'aime bien pourquoi aussi on a sélectionné cette plante, parce qu'elle a vraiment ce côté un peu magique, d'hallucination, enfin il y a toute une histoire traditionnelle autour de ça, et donc j'ai fait quelques recherches sur les différentes préparations traditionnelles de c'est pas la datura, c'est le datura, donc c'est masculin, moi je disais la datura, tu vois. Donc, par exemple, les Indiens sud-américains préparaient le fruit de la datura pendant les cérémonies pour entrer en contact avec les dieux. Au Mexique, on fumait les feuilles pour provoquer des ivresses bavardes, pour se défoncer, quoi. Le Congolais brésilien, sous le nom de Agogo, et dans les rituels vaudous haïtiens, il l'utilisait aussi pour entrer dans des états de transe. Donc, il y a toujours ce rapport spirituel qui était quand même assez fort. Donc là, dans les recherches que j'ai trouvées, qui c'est dès le XVIe siècle, elle arrive en Europe via les Espagnols qui l'ont ramenée du Mexique. Ça, c'est moi ce que j'avais trouvé, notamment. Et donc, elle est vraiment utilisée, c'est la plante des sorcières par excellence, en fait, parce que les sorcières utilisaient pour endormir les gens, enfin, voilà. Et donc, du coup, elle a tout de suite eu un mauvaise presse, en fait, auprès des gens, parce que c'était les sorcières qui les utilisaient. Enfin, les sorcières, on l'entend, évidemment. Et aussi, c'est marrant pour les règlements de compte, c'est-à-dire on endormait quelqu'un, pour aller voler quelqu'un, on mettait de la datura dans sa tisane, la personne partait en hallucination, on pouvait lui piquer tout ce qu'elle avait chez elle. Quoi. Alors, pour les propriétés médicinales, parce que malgré tout, il y en a, donc elle inhibe le fonctionnement du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire toutes les fonctions automatiques, c'est-à-dire la digestion, le battement du cœur et tout, donc ça l'inhibe, quoi, tout simplement. Ça a des propriétés bronchodilatatrices, ça dilate les bronches, et c'est utilisé notamment dans certains médicaments à petite dose, en fait, pour justement ces propriétés-là.
Est-ce que c'est bon pour le Covid?
Ah, ça, je sais pas. Je suis pas allée jusque-là. Par exemple, dans le bassin caribéen, à Trinidad, la décoction des feuilles est utilisée pour traiter les hémorroïdes. À Honduras, les fleurs sont exploitées contre les maux de tête en cataplasme. Il faut les faire en cataplasme. Aux Antilles, les feuilles passées à la flamme étaient appliquées sur les enflures et inflammations. Donc voilà, il y a aussi différentes manières d'utiliser la plante selon les cultures, qui est aussi intéressante. Et voilà, j'ai trouvé ce truc mais hyper drôle. Au Moyen-Âge, quand ils partaient sur des grandes chevauchées à cheval pendant des jours, des mois, et que le canasson était un peu fatigué, ils enroulaient quelques feuilles dans le rectum du canasson qui était fatigué, et ça le réveillait et pouvait tenir encore. Quoi. Donc c'était un dopeur pour les chevaux aussi. Quoi. Donc il y a vraiment des manières d'utiliser. Il ne faut pas tester ça chez soi. D'accord, on évite quand même. Alors, par contre, bon, important, si intoxication, il y a de datura. C'est important qu'on se le dise, parce que ça peut être dans votre boîte de petits pois, donc ça sera dommage. Voilà, donc c'est les hallucinations, désorientation, confusion, assèchement des muqueuses, notamment respiratoires, sécrétion de salive. L'eau ne parvient pas à soulager, t'as beau boire, t'as toujours soif, quoi. Battement du cœur accéléré, de la tachycardie, quoi. Et élévation de la température corporelle. Voilà, en gros, les petites choses que j'avais vues. La datura. Et c'est vrai que ça fait des fleurs assez belles. Même en fait, c'est très utilisé en termes d'ornement, parce que les fleurs sont magnifiques. Sauf que, ouais, quand t'as des gosses dans le jardin, t'as un peu peur, quoi, que ça se termine. Enfin, c'est quand même une responsabilité.
J'avais de beaux exemples de tapisserie vers 1900 datura. Juste pour terminer sur cette fameuse controverse cloisonnée là entre botanique. C'est que on l'a trouvé un petit peu partout, des écologues, plutôt des ethno-écologues ou des historiens de la botanique, on trouvait chez Avicenne, chez des tas d'exemples d'auteurs au Moyen-Âge qui parlaient de datura. Et puis, début des années 90, on a ces deux auteurs-là, Simon et Peggy, qui sont plutôt taxonomistes et qui ont travaillé avec des généticiens et qui montrent que, en fait, de façon incontestable, le Datura s'est diversifié au Mexique et au Guatemala et donc ne peut avoir été rapporté en Europe que après Christophe Colomb. Logique. Donc voilà, il nous a, donc, tout ce que vous avez pris pour du Datura, c'était pas ça, c'était autre chose. Chers amis historiens, allez-y, cherchez, trouvez-nous quelle était cette langue dont parlait Avicenne, parce que c'était pas ça. Et les historiens, donc ça c'est le dernier article que vous avez mis, bon, il y a eu tout un débat, mais ça c'est celui qui a un peu clos la controverse, justement, ils sont retournés dans tous ces travaux et montré que bah, si, en fait, il n'y a pas d'autre alternative, c'est forcément du Datura. Avec donc la question qui est encore ouverte aujourd'hui de comment le Datura est arrivé en Asie et en Europe autour du 8e siècle, alors que on associe plutôt la découverte à l'Amérique à Christophe Colomb. Et donc, il termine juste avec des ébauches de possibilités, puisqu'il y a d'autres plantes comme ça, dont on ne sait pas très bien comment elles vont circuler, comme la patate douce, par exemple, ou une espèce de courge. On ne sait pas très bien si c'est des courants marins qui les ont amenés, aussi peut-être des voyageurs polynésiens qui ont pu emmener des plantes avec eux. Mais il y a des spécialistes dans cette salle, dans ces questions-là. Peut-être que la controverse, en fait, s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas.
Ça va être plus.
Oui, par exemple.
Moi, j'ai un peu les mêmes infos que ce que tu viens de dire. Il y a toujours une incertitude sur. On a fait la retrouver. Enfin, on a trouvé des traces de patates douces en Nouvelle-Zélande, qui est donc la toute dernière île des migrations pollinisées qui passe par l'île de Pâques et reviennent ensuite en Nouvelle-Zélande. Peut-être dire une connerie, mais je dirais 600 ans, à peu près. Enfin, pas beaucoup plus, quoi. Et la patate douce, ça. On a trouvé des patates douces en Nouvelle-Zélande sans qu'il y ait tout. L'Amérique du Sud et les Maoris avant que les Européens rentrent par la force, hein, par le blackbirding. Le blackbirding, c'est une sorte d'esclavage dans le Pacifique par bateau, on croit en va les chercher, etc. Et ça a aussi beaucoup déplacé les plantes, puisque les gens pensaient qu'ils allaient faire des emportés portés avec les plantes habituelles, donc les cocotiers, les tarots, etc. Alors aussi que les cocotiers, c'est importé par les humains en fait, pendant les migrations, il n'y avait pas de cocotiers dans le Pacifique avant qu'il y ait des humains. Mais pour la patate douce, c'est une éventuelle piste vers des contacts sud-américains et polynésiens avant les Européens. Mais je crois que je suis pas sûr que la réponse soit.
Ok, donc il est monsieur ethno-écologue aussi. Et donc voilà, cette plante a des origines mystérieuses, mais fascinantes. Son caractère invasif devient bien relatif, évidemment, quand on le regarde par rapport à ces questions-là.
Ce que je vous propose, c'est si vous voulez boire un coup d'eau avec de la menthe et du thym. Donc la menthe pour la digestion, le thym pour la gorge, tout ça, donc du jardin. Et puis on se retrouve dans le jardin.